Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport.
Elle a subi un camouflet 4 jours avant de disputer une finale. L'équipe de Suisse de football joue la première place de son groupe de Ligue des Nations dimanche face à la Belgique. Alors faut-il s'inquiéter de l'état de forme de la Nati après sa défaite face au Qatar? Que doit-on attendre d'elle face au Diable Rouge? On décrypte la semaine de la sélection de Vladimir Petkovic dans un instant. Place ensuite au grand large, on vous embarque dans une traversée de l'Atlantique à la voile, une traversée express comme le démontre la route du Rhum. Un nouveau record a été établi en début de semaine par le navigateur français Francis Joyon. Scénario incroyable avec 7 petites minutes d'écart entre les deux premiers à l'arrivée et un futur qui s'annonce encore plus rapide. Il ne faudra pas avoir le mal de mer en deuxième partie d'émission.
Cap Sport, Mathieu Schaffner.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Sport, football et navigation, donc au programme aujourd'hui. Et on va tout d'abord tenter de se rassurer avec vous, Bertrand Chauffat. Bienvenue dans cette émission.
Bonsoir.
Vous êtes là pour décrypter la semaine de la Nati, vous qui avez côtoyé pas mal, voire quasiment tous les joueurs de cette équipe de Suisse dans les sélections de jeunes, également ancien directeur technique de l'association de football Berne Jura. On va aussi débattre de l'état de forme des Helvètes avec vous, Michel Léoni, merci de nous rejoindre.
Bonsoir.
Michel, entrons peut-être dans le vif du sujet avec vous. Il y a eu donc cette défaite en amicale mercredi face au Qatar, 1-0 du côté de Lugano. Et dimanche, ce sera la Belgique qui va arriver à Lucerne pour jouer la première place du groupe de Ligue des Nations. Est-ce qu'on doit être inquiet pour l'équipe de Suisse ?
Mais je ne pense pas qu'on doit être inquiet parce qu'il faut aussi voir le contexte dans lequel cette partie a été jouée. Vladimir Petkovic a dû faire face à de nombreux blessés, a mis sur le terrain une équipe qui n'était pas du tout l'équipe type. On a manqué beaucoup d'automatisme dans l'équipe de Suisse. Ça s'est également joué sur un terrain dans des conditions très difficiles, pas forcément appropriées au jeu de l'équipe de Suisse. Par contre, ce qu'on peut regretter avant tout, c'est je dirais, l'attitude de certains joueurs. Ça peut par contre un petit peu inquiéter quand on voit des joueurs comme Xhaka, par exemple, ne pas ressortir du lot contre une équipe comme le Qatar, ne pas forcément... En tout cas pas absolument mouiller le maillot, ça montre une attitude peut-être un petit peu négative quand même quand on aborde un match comme celui de la Belgique. Maintenant, globalement, je dirais évidemment qu'il ne faut pas être inquiet de cette défaite parce qu'elle n'a fait que mettre en lumière certaines lacunes qu'on pouvait attendre de certains joueurs. Par contre, là, on peut être inquiet. Donc d'après moi, c'est vraiment cet état d'esprit pas forcément très conquérant pour des joueurs clés de l'équipe de Suisse quand on joue contre des adversaires dits faibles.
Bertrand Chauffat, pas d'inquiétude sur l'état de forme de cette Nati?
Oui, non. Moi, comme l'a dit tout à l'heure Michel, c'est dans l'attitude, l'implication des joueurs. Pour moi, c'est totalement insuffisant. Et quand on porte le maillot de l'équipe nationale, on n'a pas le droit de se comporter de la sorte. J'ai eu comme le sentiment d'un je m'en foutisme total de certains joueurs, même des joueurs qui étaient là pour la première fois. Des passes très faibles, de mauvaise qualité, on ne prend pas le jeu à son compte, il n'y a pas de rythme contre une équipe qui ressemblait quand même à une moyenne, voire forte équipe de Challenge League, rien de plus. Donc quand même une certaine inquiétude, parce qu'avec ce comportement-là, on ne fera pas partie du final four, comme on aime l'appeler.
Mentalement, ça peut encore jouer dans les têtes de la Nati dimanche, quand on se retrouve face à la Belgique?
Non, je pense pas, parce que jouer contre la Belgique avec l'équipe de Belge qui est composée de joueurs fantastiques, je pense que là, il n'y a pas besoin de motivation. Et puis, Petkovic aura su tirer les enseignements d'un tel match pour mettre cette équipe vraiment sur les rails. Et là, il y aura un autre comportement, ça, moi, j'en suis persuadé. Mais voilà, est-ce que ça sera suffisant au niveau qualité? Parce que là, ils avaient une bonne occasion contre le Qatar de mettre certains automatismes en place.
Ouais, bon, on va pas trop s'attarder quand même sur ce camouflet de mercredi, plutôt nous tourner sur cette finale de dimanche, la Suisse qui doit battre la Belgique pour terminer en tête de son groupe et puis poursuivre l'aventure dans cette Ligue des Nations. Bertrand, qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait dire que cette mission-là, battre la Belgique, c'est dans les cordes de la sélection de Vladimir Petkovic?
Bon, c'est possible, mais il faudra battre la Belgique pas par un score de 3-2 ou 4-3, il faut deux buts d'écart. Et deux buts d'écart.
Ou
1-0. C'est quand même compliqué, mais je pense qu'avec les changements forcés aussi que mettra en place Petkovic, avec le retour de certains titulaires, cette équipe aura déjà une autre figure, et puis le comportement de certains joueurs, des Mbabou, Lang, montreront quand même la voie, même à Xhaka ou Moi, je pense surtout à Tchaka, qui a été en dessous de ses possibilités, parce que c'est un immense talent. Mais ça ne suffit pas d'être un talent.
Il faut le montrer.
C'est ça.
Exactement. Michel Leoni, c'est la meilleure nation du monde qui arrive à Lucerne, cette Belgique. C'est en tout cas ce que dit le classement FIFA. Alors on va quand même se méfier de cela. Ça fait plus de 2 ans que la Nati n'a plus battu une grande sélection. Le dernier succès, c'était face au Portugal, tout frais champion d'Europe en septembre 2016. C'est quand même pas très rassurant tout ça au moment de se retrouver dans une finale face à la Belgique.
Ce qui est pas rassurant, je dirais avant tout, c'est que l'équipe de Suisse doit battre la Belgique. Et ça, c'est vraiment compliqué. Parce qu'on a vu, par exemple, pendant la Coupe du Monde, que contre le Brésil, on était capable de maintenir à flot une équipe de Suisse contre une des meilleures équipes du monde, si ce n'est peut-être la meilleure, en tout cas sur le papier. Par contre, quand il faudra se découvrir, aller de l'avant, et quand il nous manque dans l'effectif des joueurs comme Cher ou Akanji, eh bien, c'est là que sera toute la difficulté de l'équipe de Suisse. L'équipe de Suisse devrait attaquer, mais devrait avant tout ne pas s'exposer aux contre-attaques avec des joueurs comme Hazard, comme Mertens ou comme Batshuayi. Ça ira très 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 vite, peut-être même trop vite par moment, et il faudra savoir trouver un équilibre justement entre attaquer pour marquer ce but, voire ces buts, et défendre solidement face à une des meilleures attaques du monde.
Jouer le 0-0, Bertrand Chauffat, le plus longtemps possible, ça peut être une tactique pour Vladimir Petkovic?
Alors oui, parce qu'à un moment donné, ça veut dire jouer le 0-0, c'est toujours compliqué, mais en tout cas ne pas prendre de risques. Plus le temps passera, plus les Belges seront contractés, parce que à un moment donné, il faudra pas prendre ce goal. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, 1-0 suffira. Et là, ça peut crisper une équipe. Et on s'est déjà retrouvé dans telle situation, en ne s'ouvrant pas, et en ayant le sentiment qu'on doit attaquer à tout rompre. Mais c'est pas la bonne tactique. La bonne tactique, c'est d'avoir un bon équilibre, de prendre le match à sa main, mais d'avoir un bon rythme de jeu et pas s'endormir avec le ballon et jouer de façon latérale.
Il y a quand même quelques casse-têtes à résoudre, on a le sentiment, pour le sélectionneur national. Le premier, c'est peut-être le plus grand, c'est au niveau de la défense, Bertrand Chauffat. Qui aligner finalement pour tenir le choc? On sait que les tauliers sont blessés, Akanji, Djourou, il y a Cher qui est suspendu. Défense quand même assez dégarnie.
Oui, je pense que Petkovic viendra en 4-2-3-1, ce qui me paraît le plus logique, avec dans l'axe Elvedi et Klose. C'est quand même du solide, parce que Klose, c'est un gars qui va au charbon. Hein, il met la tête où on ne met pas le pied. Donc, quand on doit jouer contre Batshuayi, voire Lukaku, il faut être là, il faut être présent. Elvedi peut très bien le compléter. Et sur les côtés, on peut avoir des joueurs d'expérience comme Rodriguez. Et de l'autre côté, ça sera un choix pas évident pour Petkovic entre Mbabou, que je préfère à Lang grâce à sa vitesse. Mais je connais bien Michael Lang, qui est capable de beaucoup de choses. On l'a vu d'ailleurs en première mi-temps contre le Qatar.
Ouais, vrai duel de ce côté-là, sur ce poste-là. Peut-être un petit mot sur Tim Klose. C'est un joueur qui joue en deuxième division anglaise. Il peut avoir le rythme, il peut avoir les qualités nécessaires à retenir un Lukaku ou un Batshuayi.
Ah, la deuxième division anglaise, c'est autre chose que la division suisse. Donc, non, je pense que là, il n'y a aucun problème, d'autant plus que Norwich est en tête de son championnat, qu'il a de très bonnes prestations, qu'il a beaucoup de temps de jeu. Et même à l'entraînement, il y a des joueurs de grande qualité dans ce club de Norwich, qui fait que je ne pense pas qu'il aura un problème de rythme. Bien au contraire, et je pense que pour lui, ça sera l'occasion, une fois, de montrer toutes ses qualités, parce qu'il a été soit pour des raisons de blessure, soit par choix de l'entraîneur, écarté des grandes compétitions internationales.
Mais voilà, vous êtes en train de nous rassurer, en tout cas Bertrand Chauffat. Michel, de votre côté, vous misez aussi sur cette défense à 4, ou Petkovic pourrait ressortir son plan avec 3 défenseurs axiaux?
Ah, c'est vrai qu'il nous a parfois surpris, hein, Vladimir Petkovic, mais je pense très sincèrement que c'est pas le moment de surprendre qui que ce soit, parce que l'équipe de Suisse, vous l'avez dit et souligné à juste titre, hein, va manquer d'effectifs, pour ainsi dire, en termes d'arrière-garde. Il va manquer les deux tauliers, les deux principaux atouts de Vladimir Petkovic en défense. Alors on va jouer avec Elvedi et Klose, c'est quasiment sûr que les deux seront alignés, et pour moi il faut jouer à 4 défenseurs, non seulement parce que c'est là que les automatismes vont venir peut-être le plus facilement, ou en tout cas ne vont pas trop manqué, et c'est aussi dans cette composition-là à 4 défenseurs que joue Klose en club, tout comme Elvedi d'ailleurs à Mönchengladbach. Donc pour moi, il ne faut pas changer ça. Par contre, je vais un petit peu peux contredire Bertrand, on peut éventuellement ouvrir un petit débat, mais pour moi, entre Mbappé et Lang, je choisirais Lang de par sa mentalité. Certes, Mbappé est également un combattant, mais aussi peut-être ce qui fait pour moi pencher la balance, c'est les qualités de Lang sur coup de pied arrêté. C'est un joueur qui peut être décisif, il l'a été d'ailleurs en Belgique, c'est un joueur qui peut être décisif notamment sur corner, et quand on sait les atouts de Closet par exemple, de la tête également, pour moi les coups de pied arrêtés seront un facteur clé. Ça a déjà été le cas au match entre guillemets aller en Belgique, et pour moi les coups de pied arrêtés joueront un rôle déterminant dans ce match là en faveur de l'équipe de Suisse, et là l'atout tête de Lang pour moi est un facteur déterminant.
Voilà, le débat est lancé. Bertrand Chopin, pourquoi Kevin Mbappé plutôt que Michael Lang?
Je vais tout à fait aussi un peu dans le sens de Michel. Par contre, la différence entre les deux, c'est la vitesse. Et avec des attaquants comme Lukaku, bon, qui servira de rampe de lancement s'il joue. Batshuayi, on l'a vu avec ses deux buts, mais surtout Eden Hazard,
hein,
qui est vraiment un gars extraordinaire, balle au pied. Et je pense qu'un gars comme Mbabou sera beaucoup plus performant. Mais là aussi, Lang a un peu plus d'expérience que Mbabou. Ça sera un choix cornélien. Pour ma part, je pencherai quand même pour Mbabou.
Et puis devant l'un de ces deux hommes, en demi de couloir sur la droite, qui est-ce qu'on va mettre? Mbolo n'est pas là. On a vu Edmilson Fernandez mercredi face au Qatar. Ça doit être sa vraie chance finalement contre la Belgique.
Bon, on a vu une chose. De toute façon, devant cette défense, il y aura Zakaria et Chaka. Ça, c'est du solide. Sur les côtés, on peut avoir des gens très complémentaires. Si on met Freuler sur la droite, que ce soit Lang ou Mbappé.
On aimerait bien l'avoir, Mbappé.
Ah ouais, moi, j'aimerais bien aussi. Et de l'autre côté, je pense qu'on aura Zuber avec Rodriguez. Donc, c'est quand même du solide. Et je pense devant eux, quand même, Shaqiri. On ne peut pas se passer de lui actuellement. Seferovic devant. L'équipe, comme ça, sur le papier, elle est intéressante. Elle est bien équilibrée. Après, c'est de trouver les bons automatismes. Et puis là, moi, je pense qu'à un, deux joueurs près, parce qu'il faut aussi penser qu'un match dure 90 minutes, qu'il y aura, voire plus, qu'il y aura beaucoup d'engagement, et que c'est aussi important d'avoir des changements qui apporteront quelque chose à l'équipe. Donc, voilà.
C'est intéressant ce que vous nous dites, parce que pour vous, c'est certain, en tout cas si vous étiez à la place de Vladimir Petkovic, vous titulariseriez Haris Seferovic en pointe.
Ben, actuellement, c'est une des seules solutions. Il marque des buts avec Benfica, il a pas mal de temps de jeu, pas énormément, mais pour un attaquant, c'est pas trop grave. Il s'entraîne quand même avec une des équipes de pointe européenne, et je le vois quand même plus performant que Gavranovic, qui a été l'ombre de je ne sais pas qui, parce que ça pouvait être Amstutz à sa place, qu'on n'aurait pas vu la différence. Donc Gavranovic, là, il a pas marqué des points. C'était tout bon pour Seferovic. Et tant qu'on n'a pas Memedi ou des joueurs de ce type-là, ça sera compliqué. Voir un Michael Frey, qui fait de très bons matchs maintenant en Turquie, que je connais aussi très bien, et qui est capable de renverser des montagnes.
Eh bien, j'ai le sentiment, Michel, qu'on ne va pas vous mettre d'accord avec Bertrand ce soir, parce que de votre côté, c'est plutôt Gavranovic qui devrait commencer.
Ouais, c'est compliqué, hein. C'est vrai que j'ai toujours été un grand détracteur de Seferovic depuis ses débuts avec l'équipe de Suisse, donc je vais pas forcément me ranger de son côté, mais force est de constater, et Bertrand l'a souligné à juste titre, hein, que Gavranovic n'est pas au top de sa forme. Il a été l'ombre de lui-même, c'est vrai, il y a quelques heures contre le Qatar, et surtout il a déçu aussi par son attitude, hein. Il n'a pas été le combatif qu'on lui connaît, le combatif qu'il aurait dû être. Il a tenté une magère à 3 mètres du but, alors que le plat du pied aurait certainement permis à l'équipe de Suisse d'ouvrir la marque. Donc c'est tous des éléments aussi à prendre en compte et à mettre sur une espèce de balance. Et Seferovic est effectivement davantage peut-être en forme qu'il ne l'a peut-être jamais été en équipe de Suisse. En tout cas, il marque aussi du côté de Benfica, c'est un fait. Donc voilà, je dirais à part égale, parce que depuis tout temps détracteur de Seferovic.
On a compris, vous osez pas trop vous mouiller, Michel. Bon, ma foi, c'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous aussi, Bertrand Chauffat, de nous avoir apporté votre analyse. La Suisse qui défie donc la Belgique dimanche, c'est à 20h45 à Lucerne. Bon week-end à vous, et puis surtout bon match, messieurs.
Merci.
Merci.
Cap Sport jusqu'à 19h.
7 minutes et 8 secondes. Vous en avez entendu parler en début de semaine. 7 minutes et 8 secondes. C'est l'écart qui a séparé lundi Francis Joyon, vainqueur de la Route du Rhum, et François Gabart, son dauphin. Les deux navigateurs français ont bouclé la traversée de l'Atlantique à la voile en solitaire après à peine plus de 7 jours de course. Et donc, ce final d'anthologie, l'occasion de se pencher sur leur performance, l'influence aussi de l'expérience pour Francis Joyon, 62 ans, mais aussi de jeter un coup d'œil vers le futur. Et c'est avec vous, Yann Burkhalter, qu'on en parle dans Cap Sport. Bienvenue à vous.
Bonjour.
Yann Burkhalter, navigateur de la Neuville. Vous avez aussi traversé l'Atlantique, tiens, c'était l'an dernier, à l'occasion de la Mini Transat. Déjà, ce final ahurissant peut-être, 7 petites minutes d'écart entre Joyon et Gabart, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ah, c'était vraiment très très impressionnant comme arrivée, on a tous suivi ça de très près, mais ça montre qu'il y a des bateaux qui peuvent être très très rapides, et puis il y en a d'autres qui sont très bien fiabilisés, donc là on a un bon exemple de cette différence-là.
On va décortiquer tout cela. François Gabart, qui a fait presque toute la traversée de l'Atlantique sans deux éléments de son bateau, le foil tribord qui aide à la portance, et puis le safran bâbord, c'est une partie du gouvernail. Alors expliquez-nous, comment est-ce possible de performer à travers l'Atlantique sans ces éléments-là ?
Alors performer, c'est un grand mot, parce qu'on a quand même vu qu'il a eu beaucoup de pertes de vitesse et puis des moyennes qui n'étaient pas très impressionnantes entre guillemets par rapport au potentiel du bateau, mais comme il y en a chaque fois un de chaque côté, ça a permis d'un petit peu compenser, mais en lisant les récits, ça a été très très compliqué à régler le bateau, à faire que le bateau avance vite quand même avec ses manques là.
Donc on pourrait pas tout simplement les enlever, gagner du poids sur le bateau et puis partir dans une traversée de l'Atlantique ?
Non, alors c'est sûr que non. Là, c'est vraiment un exploit ce qu'il a fait. Réussir à faire une performance pareille avec un safran et un foil en moins, c'est assez exceptionnel.
Il y a un autre point qui suscite un peu la discussion, c'est la différence de navire aussi entre ces deux marins, Joyon et Gabart. Le vainqueur qui fait cette traversée avec une embarcation vieille de 12 ans, Gabart, lui, il était à la barre d'un bateau bien plus récent, 3 ans seulement, et puis en plus totalement revisité l'an dernier. Est-ce que la technologie, elle ne fait pas progresser tant que cela, finalement, le monde de la voile ?
Non, au contraire, ça progresse énormément. Et puis là, c'est simplement un problème de fiabilité sur ce bateau. On a vu, par exemple, pendant une traversée de l'Atlantique en test, qu'il a des performances exceptionnelles. Et là, il a eu, entre guillemets, la malchance de casser du matériel et n'a pas pu montrer tout le potentiel du bateau. Mais c'est clair qu'il y a encore moyen de baisser leur corps de beaucoup.
Donc pour vous, à armes égales, sans casser son bateau quasiment au départ, Gabart, il était largement devant Joyon ?
Oui, malheureusement, c'est un peu une... on le sait que s'il n'y avait pas eu ces problèmes-là, il aurait été loin, loin devant. C'est un bateau qui va physiquement beaucoup plus vite. Donc Joyon a très très bien navigué, il s'est accroché. Ça fait aussi partie d'une course comme ça, d'avoir un bateau qui est fiable et puis qui peut tenir la distance. Donc il a vraiment mérité sa victoire. Mais sans cas, c'est clair que Gabart serait arrivé bien, bien avant.
L'expérience, est-ce qu'elle a aussi un rôle à jouer, alors que ce soit dans cette victoire-là ou de manière plus générale, avec Joyon qui a 62 ans, Gabart seulement 35 au compteur ?
Oui, alors je pense que justement, Joyon, il a tenu le coup, il s'est accroché, il a fait vraiment une super course et il a su prendre l'opportunité quand il y en avait une. Ça, je pense que c'est beaucoup l'expérience qui fait parler, même si Gabart a quand même une très très grosse expérience déjà maintenant. Mais ça aide à prendre les bonnes décisions au bon moment, peut-être à lever le pied quand la mer est vraiment affreuse et à ne pas casser le bateau. Ça peut aider.
Si on fait un énorme raccourci, je le souligne vraiment, un énorme raccourci, on se dit que le physique, il compte pas tant que ça dans votre sport, Yann Burkhalter, en voyant un papy, si on peut le dire ainsi, 62 ans pour Francis Joyon, remporter cette Route du Rhum.
Non, alors je pense que c'est un papy qui est bien au-dessus de beaucoup de personnes, même des sportifs qu'on peut connaître. Il a vraiment aussi une volonté énorme. Et ça reste des bateaux très très physiques, où il faut vraiment une condition physique au top, et puis aussi un mental. Donc je pense que lui, c'est le mental qui l'a vraiment aidé.
Il y a encore de nombreux navires en course alors que ces deux-là ont terminé depuis 4 jours désormais. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel écart ? Pourquoi est-ce que certains mettent 7 jours pour faire cette traversée de l'Atlantique et puis d'autres vont y passer quasiment 2 semaines ?
Voilà, c'est clairement la performance du bateau. Les premiers bateaux, c'est des trimarans qui sont vraiment très grands avec beaucoup de voiles, donc qui ont des performances beaucoup plus rapides. Et les autres sont plus petits, donc c'est normal qu'ils mettent plus de temps.
On a vu aussi énormément de casses dans cette édition, des concurrents qui ont chaviré, d'autres qui sont rentrés dedans, sans oublier ce choc d'une navigatrice contre un cargo, des conditions dantesques dès le départ. C'est dire combien une telle traversée est périlleuse, ça on le comprend bien. Aujourd'hui, la course au large, c'est clairement un sport extrême.
Oui, alors ça c'est clair que c'est un sport extrême. Là, il y a eu des conditions, comme vous disiez, dures dès le début, avec beaucoup de dépression, des vents où les navires évoluaient contre le vent, ce qui n'est vraiment pas fait pour. Donc ils souffrent énormément. Et après, il y a tous les éléments externes, comme vous l'avez dit, les cargos, où il peut y avoir des containers ou des choses comme ça qu'on ne peut pas gérer.
On ne peut pas gérer, on peut facilement les éviter, vous qui avez traversé l'Atlantique, c'est le genre de péripétie qui peut vite arriver ou au contraire c'est plutôt quand on est peut-être en train de faire un petit somme, de récupérer, que ça peut se passer.
C'est vraiment les deux, autant on peut mal évaluer une situation parce que un cargo ça va quand même très vite, c'est pratiquement à 30 nœuds, si on a des bateaux qui vont aussi à 20 nœuds, les croisements sont difficiles à estimer. Donc ça peut arriver, mais il y a aussi beaucoup de situations où c'est pendant un manque d'attention.
Parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, des GPS notamment, c'est quelque chose qui devrait presque pas être possible de se collisionner finalement en pleine mer.
Oui, après, de temps en temps, c'est soit le cargo qui fait une mauvaise veille, qui n'a pas vu le bateau, ou alors le voilier qui a eu un problème d'électronique puis qui n'émettait pas sa position pendant un moment. C'est tout des choses qui peuvent influencer ce genre de collision.
On a évoqué ce nouveau record, Yann Burkhalter, un peu plus de 7 jours pour faire la traversée de l'Atlantique à la voile en solitaire. François Gabart, il dit même que dans un avenir pas si lointain, ce record va passer sous la barre des 4 jours. Ça, c'est vraiment possible assez rapidement ?
Oui, parce que là, le bateau qu'il a entre les mains, il a des capacités énormes. Donc si lui il le dit, il connaît bien sa machine et il est vraiment conscient que le bateau peut aller très très vite. Mais pour ça, il faut des conditions adéquates.
Et quand on est sur un record de ce type-là, j'imagine que le sommeil, on le met quasiment de côté ?
Il faut le mettre de côté, mais pas trop non plus. Là, on a eu un bon exemple cette nuit avec Alex Thompson qui s'est endormi puis qui a tapé la Guadeloupe. Donc c'est un très bon exemple que le sommeil est important. Il a voulu faire une petite sieste juste avant l'arrivée, ce qui est juste parce que le tour de l'île est très épuisant, donc il faut y arriver reposé. Mais il n'a jamais réussi à se réveiller, donc le sommeil c'est quand même important dans une transat comme ça.
Et la vigilance également. Yann Burkhalter, un petit mot sur vous quand même avant de se quitter. Vous avez fait cette traversée de l'Atlantique, on l'a dit, l'an dernier lors de la mini transat. Depuis, on n'entend plus trop parler de vos futurs projets. Le pied marin, ça vous a quitté ?
Non, pas du tout. C'est simplement que ça a été 2 ans de ma vie consacrés à 200% à ce projet. Qui était vraiment un magnifique projet. Puis là, il m'a fallu un petit peu de temps pour remettre les pieds sur terre, reprendre le travail activement, aussi mettre un peu d'argent dans les caisses, parce qu'un projet comme ça coûte très cher. Alors maintenant, je commence gentiment un peu à y réfléchir, à me demander est-ce que je ne veux pas refaire un projet comme ça dans quelques années. Ça, c'est en train de mûrir.
Mais rien de concret pour le moment ?
Non, pas précisément maintenant, ça viendra.
Et donc, il faut aussi aller à la pêche aux sponsors pour rester dans le milieu. C'est aussi ça qui est peut-être un peu compliqué dans ce sport-là, quand on vient de l'arc jurassien, qu'on n'est pas forcément entouré de grandes mers, d'océans.
Oui, c'est clair. À mon avis, c'est le plus gros défi de ces projets, c'est de trouver les financements. Et puis après, le reste, ça vient tout seul, mais c'est ça le plus dur, oui.
Eh bien, bon courage à vous, Yann Burkhalter, dans cette pêche aux sponsors notamment. Et grand merci en tout cas d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur les performances réalisées sur cette route du Rhum 2018. On vous souhaite un très beau week-end et puis surtout bon vent pour ces projets futurs.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez ce numéro et tous les précédents en podcast sur notre site internet. Cap Sport revient vendredi prochain. Il sera notamment question du développement du CrossFit dans la région. Belle soirée et très beau week-end sportif à vous.
Cap Sport.